23h en temps universel, minuit à Paris.
24h en France sur RFI.
Et nous sommes ensemble pour 30 minutes d'actualité française dans l'Hexagone et ailleurs sur la planète.
Raphaël Rennes.
François Fillon définitivement jugé coupable dans l'affaire des emplois fictifs impliquant notamment son épouse Pénélope. La Cour de cassation valide la culpabilité de l'ancien Premier ministre mais ordonne un nouveau procès pour fixer la peine à son encontre. À 45 jours des élections européennes, Emmanuel Macron prononcera ce jeudi un discours sur l'Europe. Ce sera à la Sorbonne, là où le président avait déjà évoqué sa vision communautaire en 2017. À gauche, Raphaël Glucksmann a livré sa vision de l'Europe dès ce soir. Et puis les Français sont de plus en plus vieux, ou plutôt il y a de plus en plus de vieux Français. Le nombre de centenaires a été multiplié par 155 depuis 1950. On en parle dans une dizaine de minutes. Ici à Paris, on est déjà jeudi 25 avril. C'est 24 heures en France. Bonjour, bonsoir, bienvenue.
Radio France Internationale.
Un nouveau procès en vue pour François Fillon. La Cour de cassation a donc confirmé ce mercredi la culpabilité de l'ancien Premier ministre, qui avait été condamné en mai 2022 à 4 ans de prison, dont un ferme, dans une affaire d'emploi fictif. François Fillon avait employé sa femme, Pénélope, comme assistante parlementaire alors qu'il était député. Si elle reconnaît bien François Fillon coupable, la Cour de cassation demande toutefois un nouveau procès pour fixer sa peine, Pierre-Olivier.
C'est une petite bouffée d'oxygène pour François Fillon. Si la plus haute juridiction reconnaît bien sa culpabilité, notamment pour détournement de fonds publics, elle demande en revanche aux juges de revoir leur copie concernant la peine prononcée. François Fillon avait été condamné en appel à 4 ans de prison dont un ferme ainsi qu'à 375 000 euros d'amende. Mais ce mercredi, la Cour de cassation, qui vérifie qu'un jugement est bien conforme aux règles en vigueur, trouve justement à redire sur cette sanction. Elle explique qu'un juge ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis que si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent toute autre sanction inadéquate. Or, dans ses motivations, le juge n'a pas démontré en quoi une autre peine aurait été inadéquate pour François Fillon. Concernant les centaines de milliers d'euros de dommages et intérêts que le couple devait verser à l'Assemblée nationale, là encore, la Cour remet en question ce montant. C'est donc lors d'un nouveau procès dans les mois qui viennent que François Fillon connaîtra la nouvelle peine à laquelle il sera condamné.
Pierre-Olivier. Ce sera en fin de matinée ce jeudi. Emmanuel Macron va prononcer un discours sur l'Europe à la Sorbonne, la même où il avait déjà prononcé un discours sur l'Europe au début de son premier mandat en 2017. À 45 jours des élections européennes, le chef de l'État a choisi de se positionner sur une thématique qui représente son ADN politique pour faire un bilan et des propositions. Alors, Emmanuel Macron fait-il son entrée en campagne, Valérie Gasse ?
C'est le discours du chef de l'État d'un grand pays qui formule des orientations et des propositions pour le Conseil européen qui aura lieu après l'élection du 9 juin. C'est ce qu'on martèle à l'Élysée pour replacer cette intervention dans un agenda stratégique et contourner la question qui fâche. Emmanuel Macron entre-t-il aujourd'hui dans la mêlée électorale pour relancer la campagne d'une candidate, Valérie Ayé, qui ne cesse de perdre du terrain face à Jordan Bardella? Mais dans l'équipe de la tête de liste Renaissance, certains ont au moins de pudeur politicienne et reconnaissent que si ce n'est pas un discours de campagne au sens militant du terme, c'est bien un discours dans la campagne. Car en défendant une Europe puissance, capable de résister aux crises, Emmanuel Macron va bel et bien opposer sa vision à celle de ses adversaires en matière de défense, de sécurité, d'économie, de démocratie, de valeurs. Et dans la majorité, on espère que cela aidera à mobiliser la base électorale sensible aux questions européennes et à remonter dans les sondages. Le pire concept d'un cadre du parti présidentiel, ça serait qu'il n'y ait aucun effet.
Et Raphaël Glucksmann entendait couper l'herbe sous le pied du président. La tête de liste Parti Socialiste Place Publique aux Européennes tenait dès ce soir un discours sur sa vision de l'Europe. C'était à Strasbourg. Un plan Europe 2030 allant d'une aide accrue à l'Ukraine à un vaste plan de transition écologique en passant par le renforcement de l'Europe sociale. Raphaël Glucksmann qui n'a pas manqué de tacler le chef de l'État.
Emmanuel Macron aurait pu rencontrer l'histoire le 24 février 2022. Il a refusé de prendre la tête de la résistance européenne à Poutine. Il aurait pu rencontrer l'histoire en défendant les progrès proposés par la Commission européenne, les progrès sociaux, les droits accordés aux travailleurs des plateformes, l'obligation pour le secteur financier de répondre aux devoirs de vigilance. Il l'a refusé. Alors, demain, quand nous écouterons son discours qui probablement promettra la rupture avec le libéralisme, promettra l'avènement d'une Europe puissante. Il faut que nous ayons en tête l'ensemble des reculs. Nous ne sommes pas des poissons rouges. Nous nous souvenons, nous, de la loi immigration et de la réforme des retraites.
Des propos recueillis à Strasbourg par Raphaël Delvolvé. Le Rassemblement national, lui, enchaîne les polémiques autour de certaines personnalités qui devaient composer sa liste. Mathieu Vallet, ancien commissaire de police, sanctionné par sa hiérarchie, Saïd Ali Hamissi, Mahoret, qui enchaîne les dérapages sur les réseaux sociaux. Et puis, dernière révélation en date, le numéro 3 de la liste, Fabrice Leggeri, ancien patron de l'agence Frontex, chargé des frontières de l'Union européenne. Il est visé, lui, par une plainte pour complicité de crimes contre l'humanité. La Ligue des droits de l'homme et l'association Utopia 56 lui reprochent d'avoir facilité des refoulements illégaux de bateaux de migrants en mer. Marine Le Pen et Jordan Bardella dénoncent un harcèlement judiciaire orchestré par deux associations d'extrême gauche. Deux mineurs de plus suspectés d'être impliqués dans l'agression de Samara, cette adolescente de 13 ans à Montpellier, ont été mis en examen pour tentative de meurtre sur mineur de 15 ans. Le parquet précise que l'un d'eux a été placé sous contrôle judiciaire. Cela porte à 5 le nombre de mises en examen de mineurs pour tentative d'homicide dans ce dossier. Le ciel français sera très peu perturbé par le passage des avions ce jeudi. Un mouvement de grève des contrôleurs aériens limitera très fortement le nombre de vols au départ et à l'arrivée des aéroports. Plus d'un vol sur deux supprimé à Roissy, 2 vols sur 3 à Marseille, jusqu'à 3 vols sur 4 annulés à l'aéroport de Paris-Orly. Nathanaël Vitran, le préavis de grève déposé par le principal syndicat du secteur a pourtant été levé, mais cela n'aura rien changé.
Cela faisait près d'un an et demi que la Direction générale de l'aviation civile et les syndicats négociaient sur les conditions d'application d'une vaste réforme du transport aérien. Et décidément, à quelques mois des Jeux Olympiques, les syndicats sont en position de force, puisque la perspective d'une grève a permis en quelques heures de trouver une issue favorable à ce conflit. Une issue favorable avec le syndicat majoritaire à tout le moins, mais trop tard pour éviter une journée qui s'annonce compliquée. Par précaution, les aéroports français avaient déjà demandé aux compagnies aériennes d'annuler ou de reporter une partie de leur vol et il était trop tard pour les reprogrammer. D'autant que rien encore n'avait été signé mercredi soir avec les autres syndicats. Ces perturbations vont avoir des conséquences ailleurs en Europe puisque les contrôleurs aériens ne se contentent pas de gérer le décollage et l'atterrissage des avions. Ils assurent tout le trafic dans le ciel français. Ce qui veut dire qu'en plus des 2000 vols annulés, un millier d'autres pourraient être forcés de contourner l'espace aérien de la métropole, entraînant d'importants retards. L'association des compagnies européennes estiment que des centaines de milliers de passagers pourraient être concernés ce jeudi.
Nathanaël Vitran. Ce sera entre 1300 et 3200. Le groupe Casino va supprimer des postes après avoir changé de main à la fin du mois dernier. La fourchette annoncée est pour l'instant plutôt large, dans l'attente de savoir combien de magasins et entrepôts pourront encore être repris d'ici le mois de septembre. Un autre fleuron de l'économie française dans la tourmente, la mythique verrerie Duralex, placée en redressement judiciaire ce mercredi par le tribunal de commerce d'Orléans. Nouvelle procédure, après un premier redressement il y a 3 ans pour le fabricant d'une vaisselle réputée incassable. Le tribunal espère trouver un repreneur. Une nouvelle audience est prévue le 5 juin. Les plus de 100 ans n'ont jamais été aussi nombreux en France. Selon l'Institut national des études démographiques, le nombre de centenaires a largement augmenté depuis le siècle dernier. Une hausse spectaculaire et l'apparition d'une nouvelle catégorie, les super centenaires, ceux qui dépassent les 110 ans. Victor Costamounier.
Ils n'étaient que 200 en 1950, ils sont 31 000. Aujourd'hui, le nombre de centenaires connaît une croissance exponentielle à tel point que selon l'INSEE, il pourrait être 200 000 à horizon 2070. Jean-Marie Robin est l'un des chercheurs qui a participé à l'étude. Pour lui, derrière ce symbole, il y a une explication assez simple.
On bénéficie de plus de services, de plus de moyens. Donc on a une population qui est de plus en plus éduquée, une population qui a bénéficié de conditions de travail meilleures, de bons salaires. Tout va dans le même sens. C'est très progressif. Hein. C'est un mouvement très lent mais continu.
Parmi ces centenaires, on compte surtout des femmes. Au-delà de 100 ans, elles sont parfois 10 fois plus nombreuses que les hommes. Des chiffres pas si étonnants en France. Le pays affiche en effet l'espérance de vie la plus élevée de l'Union européenne. Le nombre de Français qui atteignent les 110 ans, les super centenaires, augmente lui aussi, et notamment en Guadeloupe et en Martinique. Les chercheurs n'ont pour l'instant pas trouvé d'explication claire à ce phénomène.
Et on termine avec le football et la 29e journée de Ligue 1 qui s'achevait ce soir avec 3 matchs en retard. Le Paris Saint-Germain n'est pas encore champion de France. Bonsoir Éric Mamorit.
Bonsoir Raphaël, bonsoir tout le monde.
Le club parisien aurait pu être sacré ce soir, c'est l'AS Monaco qui en a décidé autrement.
Oui, le champagne attendra encore un peu. Le PSG avait pourtant rempli sa part du contrat en allant gagner à Lorient 4-1 grâce à des doublés d'Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé. Pour être officiellement sacré champion de France, le PSG devait alors compter sur un faux pas de son dauphin, l'AS Monaco, face à Lille. Mais si le club de la Principauté a longtemps manqué d'efficacité, il l'a tout de même emporté 1-0 face au 4e du classement sur un but de Youssouf Fofana. Un succès extrêmement précieux face à l'un de ses concurrents directs qui permettent à l'ASM de conforter sa 2e place et de se rapprocher un peu plus d'une qualification pour la Ligue des Champions. Tant pis donc pour Paris, qui devra attendre samedi la réception du Havre au Parc des Princes pour espérer fêter le 12e titre de son histoire. Pas de quoi émouvoir l'Olympique de Marseille, accroché de son côté 2-2 par Nice au stade Vélodrome. L'OM à 10 durant toute la 2e mi-temps, pourtant toute proche de la victoire. Pierre-Emerick Aubameyang trouvant la transversale à la dernière minute à l'issue d'une magnifique action personnelle. Dommage pour le Gabonais et pour Marseille, qui avec son 8e rang reste loin des places européennes.
Éric Mamrut du service des sports d'RFI. Puis je sais que vous aimez le tennis, Éric, et vous avez évidemment suivi les déboires de Raphaël Nadal. Il est incertain pour Roland-Garros. Raphaël Nadal a un peu plus d'un mois du début des Internationaux de France. Le joueur espagnol reconnaît qu'il n'ira pas jouer. Il n'irait pas jouer s'il était à Paris aujourd'hui. La semaine dernière, Nadal a souffert à Barcelone à l'occasion de son retour de blessure. « J'irai à Paris si je me sens capable d'être compétitif », déclare l'Espagnol. Il jouera bien demain à Madrid contre l'Américain Darwin Blanche, mais il avoue qu'il ne pense pas pouvoir jouer à 100%. C'est la fin de cette première partie. Tout de suite, l'invité d'RFI.
24 heures en France. Raphaël Rennes.
Pointe-à-Pitre la semaine dernière, Béziers il y a quelques jours, Nice qui envisage de le faire. De plus en plus de communes imposent un couvre-feu aux mineurs pour lutter contre une augmentation de la violence chez les jeunes, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, mais qui ne se traduit pas dans les chiffres, ni d'ailleurs dans les études sociologiques. Alors pour en parler, Anne Cantner recevait tout à l'heure François Dubet, professeur émérite de sociologie à l'Université de Bordeaux et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales.
Je crois que pour le moment, on a affaire à des décisions, des déclarations qui relèvent de la panique morale, c'est-à-dire que depuis les émeutes de juin dernier, les faits divers terribles, tout se projette sur l'idée que la jeunesse est devenue dangereuse, que l'autorité fout le camp, que la justice est laxiste, etc. Donc c'est très très difficile de juger de la rationalité des déclarations et des mesures qui y sont faites. La délinquance des jeunes est tout à fait dangereuse et pas contestable, mais elle n'explose pas, donc Je ne sais pas trop si on peut réagir rationnellement à des déclarations qui n'ont pas l'air d'être toujours très rationnelles.
Mais de fait, il va bien y avoir des personnes qui vont les mettre en place. Comment ça se passe, l'application d'un couvre-feu? Est-ce qu'on le met vraiment en œuvre? Est-ce que c'est un effet d'annonce?
C'est un effet d'annonce pour le moment, parce que si on le met en œuvre, qu'est-ce qu'on fait des gamins? On leur donne des amendes, leurs parents sont pénalisés, les parents, on va découvrir qu'ils sont dans l'incapacité bien souvent de contrôler leurs gamins et de payer les amendes. Donc on va se heurter à chaque étape à des difficultés que l'on anticipe et que l'on connaît. Donc évidemment, il faut dire que ces conduites sont parfaitement inacceptables, mais je crois qu'on est là dans une sorte de réponse à l'inquiétude de l'opinion publique par des mesures dont on verra très très vite demain que les enseignants, les policiers, les juges vont vous dire que c'est extrêmement difficile à mettre en place. De la même manière qu'éloigner des enfants de leur école pendant 15 jours pour les mettre dans un internat, pour les remettre où après, dans quelles conditions, tout ça c'est des questions qui sont extrêmement lourdes et qui supposent autre chose que des mouvements de menton.
Ce placement en internat avait été évoqué par le Premier ministre la semaine dernière lors d'un discours où il avait justement appelé à ce qu'il avait décrit comme un sursaut d'autorité après deux faits divers que vous mentionniez. Jeunes tabassés devant leur collège, l'un d'entre eux avait succombé à ses blessures. Alors, donc, Il y a ces mesures qui sont prises, notamment à Béziers, on le disait, le maire, ça n'est pas la première fois qu'il décide de mettre en place un couvre-feu, il l'avait déjà fait il y a quelques années, et à l'époque, la mesure avait été annulée par le Conseil d'État. Est-ce qu'on pourrait assister à la même chose, selon vous, aujourd'hui ?
On pourrait assister à la même chose. D'autre part, il faudra, si on le fait, évaluer ce que ça crée. Est-ce que ça crée plus de problèmes ou est-ce qu'on est capable de le régler ? Je crois qu'on s'adresse à des électorats, on ne s'adresse pas aux problèmes sociaux. C'est quand même ça qui me semble être la difficulté majeure. Je signale aussi que dans ces quartiers, il y a un recul du travail social, il n'y a plus beaucoup d'éducateurs, les centres sociaux sont fermés très tôt. Enfin, il y a quand même un climat qui est, au fond, de transformer une jeunesse qui est à la fois coupable de délits, mais aussi victime d'un grand nombre de difficultés, en jeunesse criminelle, ce qui est quand même... Un choix un peu lourd.
Le sociologue François Dubay, invité d'Anne Cantner tout à l'heure dans La France à midi.
Reportage France.
Retour sur ces inondations spectaculaires dans le nord de la France. C'était il y a presque 6 mois, des villages piégés par des torrents d'eau, des inondations à répétition en novembre, en janvier, en février. Aujourd'hui, l'heure est au bilan et aux expertises. Un peu de calme après la tempête, mais toujours peu de travaux pour éviter que tout cela recommence. Alors beaucoup d'habitants se posent la même question. Partir et tout quitter ou bien rester et tout reconstruire. Illustration à Neuville-sous-Montreuil dans le Pas-de-Calais, une commune de 700 habitants, l'une des plus touchées de la région. C'est le reportage France de RFI, il est signé Valentin Hugues.
Michel et Annick sont relogés à 15 minutes d'ici.
Ça se fissure dans le couloir.
Mais aujourd'hui, ils retournent dans leur maison noyée par les inondations.
Il y a 15 jours, ça y était pas.
Une maison beige au volet noir que Michel a construite de ses mains dans les années 70.
Ici, c'était la salle à manger. Là, le salon, on n'a rien récupéré.
Parce que là, l'eau, à peu près, pour qu'on se rende compte, elle monte...
Je crois que c'était 1 mètre, 1 mètre 20, au-dessus de la fenêtre, ouais. J'ai mal au cœur, parce que je dis, jamais on pourra y revenir. Jamais, jamais, jamais.
À présent, la maison est vide. Il n'y a plus que les machines pour assécher les murs.
Ça va, Michel ?
Et Jérôme Pérez,
c'est mon deuxième fils.
Ouais, c'est ça.
Locataire d'une partie de l'étage et conseiller municipal à Neuville.
Moralement, c'est compliqué parce qu'on se voit moins.
T'as qu'à passer, hein ?
Oui, mais avec les horaires que je fais, ça, c'est compliqué.
On dit de venir manger avec nous.
L'inondation, ça change beaucoup de choses, en fait.
Ah, c'est franchement. Hein, gros ? Bah, je suis à Neuville. Je peux pas te faire de café, il n'y a plus d'eau.
Sans travaux, les gens ne peuvent même pas nous dire s'ils vont revenir ou pas. S'ils ne font pas les travaux, même moi, même si je suis élu ici, je partirai. Je ne peux pas rester là.
Près de 6 mois après les premières inondations, Michel et Annick n'ont toujours pas de nouvelles des assurances.
Stand-by.
Donc là, rien.
Ouais.
Ils ne savent pas non plus si l'État va racheter leur maison, mais sont prêts à la brader moitié prix.
Ça ne vaut plus rien.
Et à Neuville, toujours aucun travaux. Les cours d'eau ne sont pas nettoyés, les digues pas construites.
Je conçois que l'heure actuelle, le niveau d'eau soit encore trop élevé pour qu'on puisse travailler.
Olivier Dequesne, maire du village.
Mais on commence déjà tout ce qui est paperasse. Parce que mai, juin, juillet, août, la France, elle est en vacances. On n'a rien pour le mois de septembre. Et puis tout le monde a peur. Il y en a qui sont sur le bord de prendre la corde. Ils ont tout perdu. De toute façon, j'ai dit, arrivé au mois de juillet, août, on sera oublié. On y est parti pour.
Alors, sans travaux d'envergure, toujours cette même question. Partir ou rester ? Tiffaine Sailly et Antoine Gibier ont choisi de rester, coûte que coûte.
Bonjour.
Les jeunes propriétaires avaient emménagé 1 mois avant les inondations.
C'est vrai que ça nous a coupé tous nos projets. Et c'est vrai qu'on repart sur une page blanche. On se projette avec des aménagements dans la maison, comme par exemple, on aimerait bien surélever. Faire des espèces d'estrades, on verra comment on peut faire du coup avec les entreprises.
Le coût total des rénovations est estimé à 80 000 euros. Ils espèrent se réinstaller à la fin de l'été.
C'est vraiment un traumatisme qu'on a eu, mais avec tout ça, on a créé du lien avec les personnes. Hein. C'est dingue.
L'après-inondation et l'urgence de protéger Neuville, c'est aussi sauver l'âme du village pour que les habitants n'aient plus jamais à se poser cette question, partir ou rester.
Un reportage de Valentin Hugues. Il est minuit 19 à Neuville-sous-Montreuil et à Paris, 18h19 à Fort-de-France.
Le journal de l'Outre-mer.
La réforme de l'octroi de mer au menu lundi d'une rencontre entre les acteurs économiques de la Martinique et le ministre des Comptes publics Thomas Cazenave. C'est le premier titre du journal La Première. Benoît Ferrand, bonsoir.
Bonsoir. Qu'il faille améliorer ou modifier cette taxe spécifique aux départements ultramarins, tout le monde, ou presque, s'accorde à le dire, reste maintenant aussi à accorder tous les violons et ce ne sera évidemment pas le plus facile. Reportage Pedro Monerville.
Le monde économique martiniquais n'a pas boudé cette rencontre avec Thomas Cazenave, le ministre délégué chargé des comptes publics. Il fallait être là pour défendre ses intérêts et surtout être une force de proposition. François Ursulé, vice-président de l'AMPI, l'association martiniquaise de promotion de l'industrie, défend l'idée d'une réforme de l'outre-mer. Mais pas n'importe quel prix, il parle d'une meilleure répartition de la taxe.
La proposition que nous faisons, c'est une proposition de péréquation qui consiste à mettre des taux d'octroi de mer à zéro sur les produits dits de première nécessité et à retrouver cette recette fiscale sur d'autres produits. Mais il est important de préciser des produits de première nécessité non concurrents de la production locale parce que l'obsession de la MPI, c'est la protection et le développement de l'industrie locale qui est pourvoyeur d'un emploi local.
Et même son cloche pour les petits commerçants qui parle la voix de Michael Euloger, membre de la CIM, l'association des commerçants indépendants de Martinique. La répartition de la taxe ne peut être qu'un avantage, il l'a répété au ministre.
La proposition qui a été faite, qu'on fait peser moins de taux d'octroi de mer sur les produits de première nécessité pour les répartir sur d'autres produits à plus forte valeur ajoutée. Et c'est une idée qui fait son petit bout de chemin et je pense qu'on est sur la bonne voie.
Le monde économique du territoire reste donc attentif à l'évolution de ce dossier de l'octroi de mer. Le ministre, lui, pour sa part, dit jouer la carte de la concertation et se veut à l'écoute des acteurs locaux.
Il fallait s'y attendre. Des petits malins tentent depuis quelque temps de vendre très cher des billets pour assister aux épreuves de surf des Jeux Olympiques sur le site de Teahupo, à l'est de Tahiti. Belinda Tumatariri.
L'alerte a été donnée par un prestataire de Teahupo. Un client le contacte depuis Paris et l'informe que des tickets sont en vente sur le site Universal Sports Ticket, moyennant la somme de 1 000 euros, soit 120 000 francs pacifiques. Une tentative de fraude immédiatement dénoncée et qui est arrivée jusqu'aux organisateurs. À quelques mois des Jeux Olympiques, le comité Paris 2024 tire la sonnette d'alarme. Pascal Luciani, sport manager pour le comité Paris 2024.
On a une équipe qui veille justement à ça. Et puis nous, on a dès qu'on a une information de ce type, c'est relayé tout de suite vers Paris. Et c'est Paris qui se charge en fait de mettre tout en œuvre pour éviter ce type d'arnaque.
Pour rappel, l'accès au site de Teahupo est totalement gratuit. Mais il faut être tiré au sort pour pouvoir accéder au plan d'eau. À défaut d'être sur l'eau, des fan zones seront installées à Papara et à Tohata. L'occasion de voir la mâchoire de Teahupo sous ses plus belles couleurs.
On termine avec le plus grand rassemblement annuel des peuples autochtones. Il se tient en ce moment au siège des Nations Unies à New York et parmi les plus de 2000 représentants présents à cette 23e édition, deux responsables d'associations de la Nouvelle-Calédonie, Marguerite Poigoun.
L'instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones réunit cette année plus de 2000 participants, dont des hauts responsables et des jeunes autochtones. Parmi les représentants d'organisations non gouvernementales présentes, Yvette Danguigny, présidente de l'association Natkanak et aussi responsable de Cris et pleurs de femmes. Elle est intervenue lundi sur l'autodétermination des peuples autochtones.
Lundi 12 avril. Tous les peuples autochtones, tous les délégués doivent intervenir sur cette thématique de l'autodétermination des peuples autochtones, sur ce qui se passe dans leur pays. Alors moi, je suis intervenue sur la problématique de l'autodétermination du peuple Kanak. Je suis intervenue aussi sur la question de la décolonisation.
La deuxième intervention de la présidente de l'association Cris et pleurs de femmes porte sur les violences faites aux femmes. Elle a pu le faire devant les participants ce mardi. Cette structure vient notamment en aide aux familles des victimes des féminicides.
Je suis intervenue sur la question des violences faites aux femmes et aux filles autochtones. On est là pour plaider pour notre pays sur les thématiques qui sont données.
Yvette Danguigny est sur place à New York avec Siene Pagatélé, vice-présidente de l'association Mali Mali Toka.
Fin de cette édition. Bonne soirée.
Merci Benoît, une bonne soirée à vous également.
Le Conseil Santé avec Sounou Assurance.
Caroline Paré, vous évoquez les infections virales et bactériennes saisonnières en compagnie du docteur Benjamin Rossi.
Docteur Benjamin Rossi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue au centre hospitalier Robert Ballanger en Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce qui explique le caractère saisonnier de certaines infections virales ou bactériennes ?
Alors, dans les infections virales, bon, mais il y a des contextes épidémiques. Hein. On sait que, par exemple, beaucoup de virus de la grippe, de nouveaux variants, puisque pour qu'il infecte une population, il faut qu'il y ait une mutation qui ait lieu. Elle a généralement lieu dans des grands bassins de population, donc en Asie le plus souvent. Puis après, elle migre. Donc, il y a des migrations qui se font par les infections. Et elle arrive, en général, en Europe, en hiver. Donc, par exemple, il y a des phénomènes comme ça épidémiques. Et puis, on a vu avec le Covid qu'il y a des poussées épidémiques de 2 à 3 fois par an. Et donc ça, c'est des phénomènes qui sont liés à la diffusion du virus et dans la population. Après, il y a des choses qui sont saisonnières dans le rythme des infections, car il y a des périodes qui sont plus propices pour s'infecter. Par exemple, la période de froid. On sait très bien que quand il fait froid, on a une réaction, l'air est plus froid et sec. Donc on a une sécheresse qui se fait au niveau des muqueuses nasales. Du coup, le nez qui joue un rôle de filtration contre les micro-organismes, normalement, puisque c'est là où il y a des cellules immunitaires qui sont situées, ne peut pas jouer ce rôle-là. Et du coup, on respire par la bouche, on irrite nos muqueuses et donc on s'infecte plus. Donc il y a des phénomènes qui sont liés à la diffusion propre des virus et qui peuvent arriver dans des saisons hivernales. Et il y a des infections qui peuvent être favorisées, par exemple, par le froid. Et c'est des problématiques qui expliquent la saisonnalité des virus. On a également la pluie qui fait que les gens peuvent se mettre plus à l'abri, se regrouper à l'intérieur, qui fait qu'à ce moment-là, quand il pleut, les gens sont plus collés les uns aux autres et donc qui peuvent permettre la diffusion de certains micro-organismes.
Merci docteur Benjamin Roussy. Dans Priorité Santé, on parle des troubles de la vision, myope, astigmate, hypermétrope. Pourquoi est-il important de corriger ces déficiences visuelles? Quand changer de lunettes? Priorité Santé, c'est à 9h10, 1h10 temps universel ou sur l'application RFI Pure Radio. Et pour témoigner, notre numéro WhatsApp, le 33 7 61 18 46 41.
Eh bien, le rendez-vous est pris, Caroline. 24 heures en France, c'est fini pour ce soir, mais on revient demain à partir de 22h en temps universel. Valentin Vaner était à la réalisation, Loïc Bussière à la rédaction en chef, assisté aujourd'hui de Stéphane Duguet. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la dernière édition d'Afrique Soir. Et puis, c'est Jérôme Bastion qui vous accompagnera pour le reste de la nuit. Mais avant ça, comme chaque jour, on fait un point sur la bourse à New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Aux États-Unis, Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones cède 43 points, clôture à 38 461. Le Nasdaq, lui, grappille 16 petits points et revient à 15 713. Le marché obligataire semble affecter à nouveau la direction des marchés d'actions, même si plusieurs résultats trimestriels, relativement moins mauvais que prévu, ont pu soutenir la tendance. Un calendrier chargé, démission par le Trésor américain avec quelques 183 milliards de dollars d'obligations de 2 à 7 ans pèse aussi sur le marché obligataire cette semaine. Ce soir, le rendement du T-bond à 10 ans remonte à 4,64. Les statistiques macroéconomiques les plus attendues de la semaine tombent demain et après-demain. Il s'agit de la première estimation de la croissance américaine au premier trimestre, d'une part, et d'autre part, de l'indice des prix des dépenses de consommation pour le mois de mars aux États-Unis, qui est prévu vendredi. Si ces chiffres se révèlent supérieurs aux anticipations, les marchés à nouveau seront fragilisés car le risque d'inflation augmentera. Aujourd'hui, Boeing rend compte de pertes trimestrielles moins fortes que prévues. Les limites imposées au volume de production de son modèle 737 MAX par le régulateur fédéral mordent un peu moins que prévu sur ses liquidités. Le cours de Boeing chute de quelque 3%. Tesla termine en hausse de quelque 12%. Le constructeur automobile dément l'abandon de son projet de production d'un modèle bon marché. Le pétrole américain rend moins d'1%, mais reste proche de 83 dollars. L'euro est inchangé à 1,07 tout rond. Le Dow Jones aujourd'hui recule de 0,1%. Le Nasdaq arrache 0,1%.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Comment lutter contre les déchets plastiques? Quelles mesures sont prises dans votre pays? Avez-vous modifié vos habitudes de consommation? On en parle alors que les représentants de 174 pays sont au Canada pour élaborer un traité international contre la pollution plastique.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À demain sur RFI.